futur proche. Certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle. Les émotions qu'ils procurent créent une dépendance.
Bonjour et bienvenue sur Game Radio, nous sommes vendredi, c'est donc la fin de la semaine et c'est le 56e podcast Game Radio. Et je vous préviens tout de suite, c'est une émission un peu particulière qui est en train de s'enregistrer actuellement. On contrôle pas grand chose aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Déjà vous le savez, donc je le disais, on est vendredi et fin de semaine oblige, c'est toujours un petit peu le souk sur Game Radio. C'est toujours des émissions un petit peu plus enthousiasmantes que les autres. Et puis là il se trouve que normalement j'aurais dû être tout seul pour en tout cas démarrer cette émission et la présenter et faire les news. Or, Shoham est là, il est là, il est pas là en même temps. En fait, c'est un petit peu compliqué, il va nous expliquer. Où est-ce que tu es, Shoham ?
Écoute, je suis au milieu du musée du jeu vidéo, sur une table qui est sur le toit de Paris. On est sur le toit de la Défense.
La classe. Ah, ouais. Pendant que moi, je suis dans le petit studio de Game Radio en train d'enregistrer. Bah exactement. Écoute, profite, hein. Respire le bon air pur parisien.
Surtout qu'il fait super beau et un très beau soleil.
Je sais, j'ai jeté un œil dehors tout à l'heure quand même, histoire de m'aérer un peu, j'ai vu qu'il faisait très beau. Revenons à nos moutons. Donc oui, je l'ai annoncé toute la semaine. Aujourd'hui, il y avait une journée presse au musée du jeu vidéo qui, je le rappelle, a ouvert ses portes cette semaine, c'était mercredi dernier, et j'ai donc annoncé, on l'a fait, hein, que tu serais dès ce matin sur place, et eh bien on a tenu parole, tu es là-bas, et donc comme je le disais, tu n'es pas tout seul, je crois que tu es plutôt bien entouré, en tout cas c'est ce que tu m'as expliqué.
Exactement, je suis très très bien entouré.
Et là pour moi c'est la surprise.
Je vais laisser se présenter eux-mêmes.
Oui, c'est la surprise, je sais pas qui est avec toi.
Eh ben voilà, tu vas avoir la surprise, donc mon premier invité.
Bonjour, Jésus-Christ. Fils de Dieu.
Super, très bien. Mais écoute, ça c'est assez inattendu.
Tu vois, tu t'attendais pas à
ouais, ça. Non, mais je savais que ce musée du jeu vidéo allait être le temple du musée du jeu vidéo en France. Mais alors là, de là à avoir Jésus sur place, j'y m'attendais pas du tout. Non, bienvenue à toi, Jésus, bienvenue sur Game Radio.
Il va se présenter plus sérieusement.
Plus sérieusement, Phil, poster fou sur le site et forum Gamopat. Gamopat, le plus grand forum et site de jeux vidéo pour les fans de rétro gaming.
Mais bien sûr.
Je le dis pas parce que ça fait de la publicité, je le dis simplement parce que c'est vrai. Ma mère m'a interdit de mentir quand j'étais petit.
Voilà. Eh ben écoute, enchanté, oui, Gamopat, très bien. Bah, oulala, quel honneur.
On a un fou avec nous, c'est génial. Je trouve super, on a un fou de jeux vidéo et il va pouvoir nous aider, fou tout court. Il va pouvoir nous aider un petit peu à parler un peu du musée et bonne surprise aussi. Tu vas entendre par toi-même. Deuxième invité.
Je dois reconnaître qui c'est.
Bonjour, Marie, mère de Jésus.
Marie, mère de Jésus. Alors, c'est Marie, mère de Jésus, forcément. Ou alors, c'est ta copine, Shoham, je ne sais pas. Non, tu m'as dit une journaliste.
Non, ce coup-là, non. Bon, elle va se présenter plus sérieusement.
Non, plus sérieusement, Maëva, donc, une amie de Phil aussi, posteuse sur le forum et site de Gamopat. Voilà.
Oh là là, mais tu es super bien entourée, effectivement. Donc, on a quasiment tout Gamopat avec nous.
Exactement.
Alors, il y a un petit peu de vent, là, non? J'ai l'impression.
Le Gamopat's finest, on pourrait dire.
D'accord. La fine fleur.
Il n'y a pas de vent, non.
Bon,
dans une pièce un petit peu en cathédrale, donc il y a pas mal de réverbération, et c'était pour ça.
Donc la qualité du son n'est pas mauvaise. Il se peut que par moment on ait peut-être des coupures, des choses comme ça. Tu es en Wi-Fi et on n'est pas dans les schémas techniques habituels pour enregistrer cette émission. Moi, je vais me permettre, si vous voulez bien, pendant 5 minutes, je voudrais parler de quelque chose avant qu'on attaque réellement cette émission, donc qu'on fasse le tour de quelques news et puis qu'on parle plus concrètement du musée. Oui, je voudrais prendre quelques instants pour revenir sur le podcast 53 de Game Radio, l'épisode intitulé « Paye ton game blog ». Nous avons voulu, souvenez-vous, réfléchir sur cette histoire d'abonnement premium qui va être lancée dans les semaines qui viennent par Game Blog. Je voulais revenir là-dessus parce qu'on nous a reproché d'avoir mené sur Game Radio à ce sujet un débat, je cite, puéril et naïf. On nous a aussi indiqué que Gameblog était vraiment dans le rouge et on veut bien le croire. Hein, il est évident que dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'ils trouvent des solutions pour s'en sortir. Ils en proposent d'ailleurs. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes? Ça, c'est un autre débat, justement. En tout cas, c'est pour toutes ces raisons que j'invite aujourd'hui Gameblog, s'il le souhaite, s'il nous écoute, ce qui m'étonnerait, bon, pourquoi pas, à participer à une de nos émissions ou à accepter une interview pour nous expliquer, vous expliquer, sans langue de bois et sans tabou, ce qui se passe chez eux et où ils en sont concrètement. Alors je sais pas, je l'ai dit, s'ils vont écouter ce podcast. En tout cas, ce matin, je leur ai envoyé un email les invitant à participer à cette émission s'ils le désirent. Nous verrons bien s'ils acceptent de venir nous en parler et de ce fait nous remettre un peu aussi à notre place, puisque bon, peut-être qu'on a été un petit peu trop virulent sur le sujet. Voilà, je tenais à prendre quelques instants pour parler de ça. On va pouvoir attaquer sur les news, Shoham, si tu veux bien.
Oui, bien sûr, vas-y. Et nos invités donneront aussi leur avis sur les news.
D'accord. Bon, alors moi j'ai relevé d'abord une première info. Ouais, ça va être light hein, aujourd'hui. D'autant plus que j'étais entre guillemets tout seul à les préparer et que j'ai manqué un petit peu de temps. Ça a été un petit peu le bazar pour moi aujourd'hui aussi. La première est plutôt amusante. Elle concerne Assassin's Creed 2. Vous le savez, hein, depuis quelques années, le jeu vidéo trouve souvent sa place dans le livre des records, le fameux Guinness Book. On se souvient notamment de Batman Arkham Asylum. Je crois que lui, c'est parce qu'il avait eu, c'était le jeu qui avait été le mieux noté, si je me souviens bien, de tous les temps. Là, il s'agit d'Assassin's Creed 2, et c'est un petit peu particulier. Ce record ne concerne pas du tout les performances du titre, mais il a obtenu une place donc dans le Guinness Book pour le nombre de premières pages qu'il a obtenu dans les magazines de jeux vidéo en moins d'un an. En fait, Assassin's Creed 2 a fait 127 couvertures réparties dans 32 pays différents. C'est pour ça qu'il vient d'entrer dans le Guinness Book des records. Moi, je trouvais ça assez amusant. Votre avis là-dessus, peut-être ?
Oui, je dirais juste comme quoi la faute de goût est universelle.
Oh la vache.
c'est fort là quand même.
C'est fort.
T'as pas aimé Assassin's Creed apparemment ?
Bah non, j'aime les jeux vidéo.
Mais c'est des psychopathes. Porte bien leur nom.
Plus sérieusement, Assassin's Creed c'est joli, c'est bien foutu, mais qu'est-ce que c'est chiant quoi.
D'accord. Enfin,
sincèrement, et je pense pas être le seul à penser ça. Le premier, en plus d'être chiant, était pas forcément très beau. Autant le deuxième, il est joli, c'est sympa, mais c'est comme regarder un reportage sur la gériatrie, quoi.
Sans aller jusque là, c'est vrai que moi je me suis particulièrement embêté hein, sur le premier épisode, effectivement, et j'ai pas joué au deuxième pour cette raison-là. Donc peut-être que t'as raison.
Maëva ?
Non, mais c'est un petit peu comme toi. Moi, j'ai acheté le premier opus et j'ai pas été conquise. Bon, graphiquement, c'était un petit peu sympa de se balader dans un univers ouvert, arabe. Enfin, c'était vraiment joli, mais après, c'est très redondant. Les voix off, les dialogues des persos secondaires, les quêtes très similaires, il n'y a que 3 villes à visiter, donc moi ça m'a pas personnellement donné envie d'aller voir plus loin. C'est peut-être dommage au final, parce que peut-être que le second opus est bien, faudrait que je me fasse mon avis, mais
ouais, peut-être aussi l'environnement du jeu, le fait qu'on se retrouve comme ça à l'époque de Léonard de Vinci en Italie, c'est peut-être pas très attractif.
J'ai trouvé que c'était justement l'intérêt du jeu, c'est d'avoir quelque chose comme ça de non, l'univers d'Assassin's Creed, je le trouve vachement sympa, quoi. C'est ouvert, c'est sympa, ça emprunte des éléments à des faits historiques. Non, ça c'est bien, c'est juste le déroulement du jeu, c'est super chiant, quoi. Enfin, les mecs qui ont fait ce jeu-là, qui jouent à des jeux 8 ou 16 bits de l'époque et qui voient ce que c'est que de l'action dans un jeu. Et je précise quand même que ça n'engage que moi et aucunement la radio.
Oui, nous écouter. On assume totalement et en même temps, tu plaides un peu pour ta paroisse, ce qui est logique, je pense, si je puis me permettre.
C'est le cas de le dire, en voilà.
D'ailleurs, Jésus. Oui, je voulais revenir sur une info dont on a parlé il y a quelques jours. J'avais annoncé qu'aux États-Unis, les tarifs des Microsoft Pawns avaient été modifiés. On pouvait trouver maintenant des Microsoft Pawns vendus par lot de 400, 800, 1600 et 4000 Microsoft Pawns. On espérait que ça vienne en France. Eh bien, apparemment, c'est pas du tout d'actualité. On avait dit que peut-être ça allait arriver, mais finalement, a priori, ça ne viendra pas jusqu'à nous. Voilà, ça ne traversera pas l'Atlantique.
Et c'est bien dommage.
Hein. Et c'est bien dommage, voilà. Un jeu qui va sortir aussi bientôt sur Wii, à nouveau d'ailleurs, parce qu'on a déjà eu un, je crois que c'est le Dragon Quest numéro 8. Ah bah tiens, là je pense que nos amis de Gamepad vont certainement avoir quelques réactions à ce sujet-là. C'est Square Enix qui vient d'annoncer Dragon Quest Monsters Battle Road Victory. Et c'est un concept tout à fait différent de ce que l'on connaît, en tout cas chez nous, puisque la licence là est adaptée en jeu de cartes. C'est en gros, tu abats tes cartes sur la table pour invoquer des monstres, des créatures, et tu les fais se battre entre elles. Donc c'est un jeu qui existe en arcade et qui cartonne au Japon. Michael, qu'on avait interrogé et qui vit au Japon, nous en avait parlé. Pareil que là-bas, ça marche du tonnerre. Et que même la borne d'arcade permet de scanner ces cartes, c'est-à-dire que t'as des cartes que t'achètes dans le commerce, dans les bureaux de tabac par exemple, et tu n'as plus qu'à aller scanner ton Pokémon, c'est un petit peu ça, pour pouvoir jouer avec dans la borne.
Le concept, hein.
Avant de donner la parole à nos invités, on va les appeler comme ça, cette version console proposera un mode tournoi, un mode online, la possibilité via une application DSiWare de télécharger sur la DSi les cartes acquises sur la borne d'arcade. Pour pouvoir ensuite les insérer dans la Wii. Je rassure tout le monde, ce jeu, pour le moment, n'est prévu qu'au Japon. L'avis de nos amis de Gamepad sur l'évolution Dragon Quest. Je crois que je vous ai perdu, les amis. J'espère qu'ils ont pas sauté du toit. Ce serait dommage. Bon, je vais voir si je peux éventuellement les recontacter tout de suite. C'est le problème du Wi-Fi. C'était totalement improvisé, je l'ai dit. Je pense qu'on va pouvoir les rejoindre. Je vais leur demander leur avis sur Dragon Quest. Bon, je sais pas si je vais réussir à les récupérer. Je pense que d'ici la fin de cette émission, et j'espère, parce qu'il faut bien qu'ils nous parlent du musée du jeu vidéo, j'espère qu'ils vont réussir à trouver une connexion, ou je sais pas ce qui leur est arrivé, j'espère qu'un, peut-être qu'un nuage de cendre s'est abattu sur eux, je ne sais pas, donc je vais peut-être continuer ces fameuses news tout seul, en attendant, donc je continue. Oui, une annonce assez sympa, Demon's Souls, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, Demon's Souls va arriver chez nous, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est Namco Bandai Partners qui va se charger de la distribution du titre en France et en Europe. C'est une exclue PS3, je le rappelle, donc qui arrivera chez nous le 25 juin prochain. Elle sera localisée dans notre langue, donc le français. Elle sera vendue en version normale et en version collector. La version collector comprendrait a priori un CD en bonus avec toutes les musiques du jeu, un artbook et la version française, en tout cas l'édition du jeu, pourrait être légèrement différente dans le contenu même du jeu. Demon's Souls sur PS3, je le rappelle, c'est un jeu de rôle à l'occidental, développé par une équipe japonaise, ce qui fait que c'est un contraste assez intéressant dans un univers apocalyptique. On a un héros que l'on incarne, donc qui doit défier des démons qui vont ravager le monde qui l'entoure. Sa quête est assez suicidaire et ça va le conduire à un coup de téléphone. Ça doit être Shoham. Je vais pas réussir à amener cette émission jusqu'au bout. Allô Shoham. Oui. Je continue, moi. Je continue mon émission. Il y a pas de problème. J'ai eu peur. Je me suis posé deux questions. Est-ce qu'un nuage de cendre s'est abattu sur eux déjà, petit 1? Et j'ai même eu peur que vous ayez sauté peut-être dans le vide. Non, a priori c'est un problème de connexion. Donc je suis rassuré, tout va bien. Ok, alors je te récupère tout de suite. À tout de suite. C'est bon, on a retrouvé Shoham. Vous l'avez entendu, je pense. Voilà, je le remets en connexion avec moi. Donc Demon's Souls, ça sort bientôt, hein, chez nous en France. Très bon jeu, on est ravis. Pour une fois qu'un jeu dépasse les frontières du Japon, c'est une bonne nouvelle. Alors Shoham, est-ce que tu es là?
Oui.
Oui. Oh, enfin, punaise, j'ai eu peur. J'ai cru que là, c'était la fin. On en est où? On peut continuer?
Vas-y, continue.
Vous êtes bon? Bon, ok. Alors, j'ai continué de mon côté. Juste, je parlais de Dragon Quest tout à l'heure, qui revient sur Wii. Je sais pas si vous m'avez entendu.
On a entendu le début, mais ça a coupé au milieu.
Vous avez entendu le début. En gros, un Dragon Quest version. Voilà, un Dragon Quest. Voilà, avec un battle système à la Pokémon. Qu'est-ce que pense Gameopath? Excusez-moi, j'ai oublié vos prénoms. J'ai même pas eu le temps de les noter où que ce soit.
Je vais donner la parole donc à Maeva cette fois-ci.
Alors non, moi j'ai pas joué à la version précédente, mais pourquoi pas, moi qui suis joueuse en même temps de jeux de rôle et jeux de plateau et jeux de cartes en même temps que je joue aux jeux vidéo, et je pense que le point fort aussi de Square Enix étant les grosses créatures, les gros boss, les invocations de chimères, ce genre de choses, pourquoi pas un mélange de jeux de cartes en virtuel, ça peut être très sympa à voir.
Ok, tant que ça n'arrive pas vers quelque chose de Yu-Gi-Oh-esque, je sais pas ce que je veux dire. Voilà, enfin bon, bref.
Oui, tout à fait, bien sûr. Mon deuxième invité, peut-être.
Bah en fait, on est sur un sujet qui est maîtrisé par Square Enix, donc logiquement, je pense qu'il y a pas de grosse prise de risque là-dessus. En plus, les combats de créatures avec un système de cartes, ça marche depuis des années au Japon. Déjà à l'époque de Dragon Ball, quand tout le monde était fan, il y a une quinzaine d'années, il y avait déjà des jeux à base de où les combats étaient à base de cartes, donc oui, c'est quelque chose qui fonctionne, pourquoi pas, et puis ça fait un petit peu d'originalité sur la Wii, en plus, c'est pas mal, ça nous change de tout ce qui sort habituellement là-dessus, et qui est fait que pour du casual, donc... j'y jouerai pas, mais je suis pour.
Donc moi, ce que j'ai expliqué, c'est que pour le moment, c'est prévu qu'au Japon. Si ça vient chez nous, toi, t'es plutôt content. Enfin, pourquoi pas?
Content. Enfin, personnellement, comme je dis, j'y jouerai pas, mais c'est bien que les gamins jouent à autre chose que Alexandra Lederman et Tap-Top, quoi.
Ouais, c'est sûr. Très bien. Bon, on va passer donc.
Dans l'avis de Maeva encore.
Oui.
Après, aussi, tout dépend le système de jeu. Si c'est de la carte, du visuel en 2D très graphique, ça peut être très sympa parce que pour moi, bon, la 3D, c'est pas le point fort de la Wii, hein, mais des jeux comme par exemple Muramasa qui sont sortis graphiquement, je trouve que c'est vraiment excellent, donc pourquoi pas, à voir si Square Enix fait vraiment du beau boulot graphiquement, ça peut être très sympa.
Ok, pendant que vous étiez absent, je parlais de Demon's Souls, est-ce que ça vous parle, ça vous connaissez?
Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler, mais moi je suis très très peu joueur de trucs récents, donc malheureusement j'ai pas d'avis là-dessus. En plus, tout ce qui est vraiment aventure et RPG, j'ai plus vraiment le temps de m'investir plus d'une dizaine d'heures sur un jeu, je vais laisser peut-être la parole à ma collègue.
Oui, en fait, c'est un jeu, rapidement, je vous explique, c'est un jeu qui est sorti déjà au Japon, qui va arriver chez nous le 25 juin, hein, en France, sur PS3, c'est une exclue PS3. Donc voilà, c'est pour une fois qu'un jeu, enfin, justement un RPG développé là-bas, qui est sorti là-bas, avec plutôt un bon jeu en plus, arrive chez nous. C'était, voilà, je l'avais signalé juste avant. Effectivement, Maeva.
Je crois qu'elle connaît pas, en fait, le
jeu. D'accord, mais y a pas de souci.
Elle connaît pas, en fait, elle a jamais joué, ni j'ai entendu parler du jeu. Mais en même temps, c'est un jeu qui est pas sorti en France, hein.
Oui,
donc,
tout à fait.
C'est très difficile pour nous d'avoir ce jeu, sauf les passionnés qui sont de l'import.
Ok, voilà. Donc, c'est vraiment trois petites infos que j'ai placées en début d'émission, comme ça, histoire 2, parce que c'est un peu le bazar aujourd'hui. Donc, on va se concentrer sur le musée du jeu vidéo. Je rappelle donc que vous êtes plutôt au perché actuellement, puisque ça se passe au sommet de la Grande Arche de la Défense.
Exactement,
à Paris.
On est vraiment les pieds dans le vide, parce qu'on a une vue panoramique directe sur Paris. Devant nous, hein, devant là, on est en train de regarder en face de nous Paris. Donc c'est presque, tu vois, luxueux, tu vois, pour cette émission aujourd'hui. Dommage qu'on n'ait pas l'image.
Oui.
Mais en dehors de ça, on a fait donc la visite du musée, bon, qui est pas non plus énorme, hein, qui est pas effectivement immense, mais qui a au moins le mérite d'exister, qui a pas mal d'ambition. Et puis on a eu aussi surtout voilà Jean-Philippe Alba. Et qui s'occupe dans digitalgames.fr, qui s'occupait du musée, et l'organisateur Alerte Orange, je me rappelle plus de son nom.
C'est pas très grave. Ouais, donc ce matin votre programme, donc je le rappelle, hein, c'était la demi-journée. Ouais, demi-journée presse. J'imagine que vous avez eu droit à une petite conférence de presse. On vous a expliqué un petit peu comment le musée a été imaginé, ce qui est proposé, en gros. Donc justement.
Oui, bien sûr. On a eu une petite conférence de presse qui nous a un peu expliqué les origines de la création du musée, et puis quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et vers quel but ils vont continuer à l'avenir. Donc un petit peu son passé, son présent, son futur. Je pense qu'on en parlera peut-être plus dans une autre émission, beaucoup plus distinctement, de manière avoir plus de temps pour le faire. Mais en plus, j'ai la chance d'avoir mon ami de Gameopath qui est intervenu durant la conférence, qui était un petit peu énervé entre guillemets.
Ah, voilà, d'accord. Ouais, mais il va nous expliquer pourquoi.
Il va nous expliquer pourquoi, parce que ça a fait un petit peu de bruit, enfin plus ou moins, il n'était pas complètement mécontent, mais il avait des choses à dire, et je crois que c'est la seule personne qui a osé dire quelque chose contre le musée entre guillemets.
Il va nous expliquer tout de suite. Ah non, alors attends, avant qu'on ait peut-être un avis négatif, j'aimerais quand même que toi, tu nous dises 5 secondes ce que tu as ressenti en étant dans ce musée, très bêtement. Est-ce que pour toi ça a été surprenant, décevant, je sais pas, peut-être en quelques mots nous dire quel est ton ressenti par rapport à ce que tu as vu ce matin.
Bien sûr, en fait moi effectivement je m'attendais pas grand chose, je me disais un musée de jeux vidéo ça va être quand même assez spécial. Je me dis même quand on dit musée tout de suite on parle de pharaon, de peinture, etc. Mais là sur du jeu vidéo je voyais pas du tout à quoi ça pouvait correspondre, et je suis agréablement surpris de retrouver finalement un peu l'exposition qu'il y avait durant l'exposition de rétro gaming
30 ans de jeux vidéo, ouais.
30 ans de jeux vidéo. On retrouve un peu le concept avec des vieilles consoles que l'on connaît ou non. Parce que moi, pour moi, il y a eu des découvertes aujourd'hui. Et puis aussi des affichettes où on peut avoir un petit peu les créateurs de jeux vidéo, que ce soit français ou international, ou bien expliquer un peu qu'est-ce que c'est Donkey Kong, qu'est-ce que c'est Mario, d'où vient Sonic, etc. Donc des choses qui vont, je pense, continuer en plus à s'améliorer par la suite. Et puis aussi la possibilité de jouer, puisqu'on a une très grande borne d'arcade de Pong et de Pac-Man. Je t'enverrai des interviews de gens qui ont joué, et c'est assez drôle. Et puis même, il y a même un Game Radio Online sur Pac-Man.
Ah d'accord, ouais.
C'est assez drôle.
Ouais.
Et puis que dire d'autre que si ce n'est que, même si c'est un tout petit, c'est une petite pièce en fait encore, pour l'instant, pour le moment, il y a quand même beaucoup de choses dans une si petite pièce. Et puis il y a aussi des vidéos qui tournent avec des explications de ce qui est Donkey Kong aussi, Mario, etc. J'invite vraiment les auditeurs à y aller, même si il n'y a pas que du jeu vidéo, il y a aussi un musée de l'informatique qui est beaucoup plus grand, qui est très
alors
sympa.
Excuse-moi, je te coupe, c'est vraiment adjacent au musée de l'informatique, c'est intégré, ouais. Dedans, comment ça se...
Ça presque à fusionner en fait.
Ah oui, d'accord.
Quand tu vois le musée de jeux vidéo, tu passes tout de suite après dans une pièce qui est le musée de l'informatique. Donc et ça va se rapprocher de plus en plus.
Et est-ce que musée, c'est vraiment le terme approprié? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt appeler ça exposition permanente ou
presque. Oui, ouais. Effectivement. D'ailleurs, je crois qu'il l'appelle plus exposition permanente, avec les pièces qui vont rester sur place tout le temps. Et puis, il y a aussi des expositions qui sont temporaires. avec là actuellement je crois que c'est une exposition je sais plus quel est le thème exactement au niveau des affiches oui de jeux vidéo et puis aussi un peu dans une grande pièce qui va certainement encore se remplir des bandes d'arcade SNK du Taito des choses japonaises qu'on n'a jamais vues en France donc c'est ça aussi c'est à voir effectivement.
Alors moi j'ai l'occasion déjà de voir des expositions de jeux vidéo pas celles dont on parlait juste avant et souvent on voit donc des consoles qui finalement prennent un peu la poussière derrière des vitrines. Donc là, t'as pas ce sentiment. A priori, t'as un vrai sentiment de vie, quoi. Ça sent pas la poussière. C'est l'une des questions que j'avais posées à Jean-Philippe Alba, justement.
Comme expliquait un petit peu la responsable donc de l'organisation du musée, elle voit beaucoup de gens qui sont pas forcément des gamers qui viennent et sont des adultes et des enfants qui viennent et ça permet aux adultes de montrer aux enfants, voilà, c'était comme ça le jeu vidéo, presque la larme à l'œil, parce que ils retrouvent un petit peu ce qui se faisait leur bonheur et leur jeu durant leur enfance. Et ils le remontrent à leurs enfants.
Alors, est-ce qu'il y a des Game & Watch? Est-ce qu'il y a ce genre de truc?
Parce que moi, il y a d'une vitrine complète de Game & Watch.
Oh là là, avec les pompiers, les trucs comme ça. Moi, c'est les premiers jeux vidéo que j'ai joué. C'était ça, hein. L'Octopussy.
Il y a toute une vitrine avec tous des Game & Watch, même des trucs que j'ai jamais vus, personnellement. Et, c'est impressionnant de voir la collection qu'ils ont pu réunir. Donc, ça aussi, c'est à voir, effectivement.
Parce qu'il faut rappeler que bah, les premiers jeux vidéo aussi c'était ça quoi, c'était en tout cas les jeux vidéo portables, c'était les Game & Watch. Donc tu parlais tout à l'heure d'un coup de gueule qu'a passé notre ami de Gameopathe et qui est avec nous. Donc est-ce qu'il peut nous en parler justement, qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, en fait c'est c'est présenté comme un truc dramatique, mais
un petit
non
peu,
dans ouais. l'absolu le musée lui-même, j'ai trouvé que c'était très sympa effectivement. Enfin notre collègue ici a bien résumé la situation. Moi mon coup de gueule venait du fait que je suis très critique avec des gens qui se revendiquent comme spécialistes ou professionnels du jeu vidéo et qui sont capables de faire des erreurs monstrueuses comme à une époque par exemple Marcus ce présentateur handicapé sur Game One qui avait passé tout un test d'un jeu Zelda sur Super NES à hurler des ordres à Link en l'appelant Zelda en disant allez avance Zelda frappe avec ton épée.
D'accord. Et Marcus en prend souvent plein la tronche. Récemment je lisais qu'on lui avait reproché d'avoir parlé de la DS comme ayant deux écrans tactiles.
Oui non mais c'est ça, ce que je veux dire c'est que enfin il est peut-être fan de jeux vidéo, il s'y connaît peut-être mais visiblement il est capable aussi de dire des conneries énormes.
C'est comme moi d'ailleurs. Je me revendique pas du tout un spécialiste du jeu vidéo. Je suis un gamer comme les autres. La seule différence, c'est que j'ai décidé de prendre un peu la parole, de créer un média qui en parle. Et finalement, je pense qu'il faut quand même. Il y a des spécialistes certainement, et tu en fais certainement partie. Mais je veux pas défendre Marcus, mais je pense que parfois on peut faire des erreurs. Il faut savoir les reconnaître.
Mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde dit des conneries. Moi le premier. Maintenant,
il
y a des erreurs comme ça. Je veux dire. Bon bref, Marcus, c'est pas le sujet du jour, c'est d'ailleurs le sujet d'aucun jour.
On va arrêter là, si tu veux bien, quand même. Ça m'embêterait de censurer une émission.
Les raisons de pourquoi j'étais agacé tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a une borne qui présente un petit peu différents jeux cultes. Ça va de Sonic à Mario, en passant par Street Fighter 2, etc. Avec à chaque fois un petit sujet d'une minute trente sur des gens qui ont fait le jeu vidéo dans les années 90, comme GM Destroy, comme AHL ou d'autres personnes comme ça. Et à un moment, ça parle de Street Fighter 2, et il y a un mec qui est apparemment à la tête de l'organisme français du jeu vidéo, enfin imagine un consortium sûrement de médecins qui se sont eux-mêmes nommés spécialistes, bref, qui dit que Street Fighter 2 est le premier jeu de combat 1 contre 1,
ce qui est pas vrai.
Et ça si tu veux, ce qui m'a agacé, c'est que ça passe dans un musée du jeu vidéo. Ce serait comme si en gros t'avais une vidéo qui passait au Louvre et qui disait ouais la Joconde ouais ça a été peint par
Alors,
Picasso.
Ce que tu reproches finalement, c'est que c'est peut-être pas assez pointu, ça vulgarise trop peut-être.
Non, de toute façon, vulgariser, c'est normal de vulgariser les choses quand, d'une certaine façon.
Oui, parce que c'est tout public, ça s'adresse
à tout le monde.
J'imagine que ce musée...
un musée du hardcore gamer ou un musée du Uber Geek, tu vois, ils ont fait un musée du jeu vidéo. Mais j'ai juste trouvé dommage que, effectivement, il y ait des choses comme ça qu'on laisse en disant alors que c'est facilement vérifiable que non, déjà le jeu Street Fighter 2 et ça serait le premier, enfin après tu vois c'est moi qui pinaille, c'est simplement que j'ai voulu pendant la conférence de presse, comme toutes les questions étaient un peu gentilles et un peu à caresser dans le sens du poil, j'avais juste envie de demander pourquoi ce genre de choses était arrivé quoi. Mais tu vois, rien de méchant enfin après.
Ouais, alors justement la réponse, qu'est-ce qu'on t'a répondu?
Ils ont été un peu gênés au fait, ils m'ont pas donné de vraie réponse. Je pense que de toute façon tu diffuseras sûrement la conférence. D'accord, bah moi on a le moment qu'on verra probablement la réponse sur la vidéo qu'on mettra nous sur Gameopat, donc je vous invite à venir voir.
Si vous voulez
une vidéo de bon goût faite par des gens de bon goût pour des gens de bon goût.
C'est un petit peu prétentieux là, non?
Je sais pas.
Moi je veux bien, mais bon, pourquoi pas.
Tu es prétentieux, comment ça? Tu penses que les gens qui verront la vidéo ne sont pas de bon goût, c'est ça que tu veux dire?
Non, c'est pas ce que je voulais dire, je ne vous connais pas. Allez, continue. Donc oui, ils ont répondu sans répondre, très bien. En même temps, moi ça me fait penser à une émission qu'on diffuse sur Game Radio qui s'appelle Musax, que moi j'aime beaucoup, et j'ai eu d'autres sons de cloche de personnes qui m'ont dit ouais, cette émission elle est bien, mais le mec il va pas au fond du truc, il te passe une musique, il te dit que c'est la musique de tel jeu, mais il dit pas quel est le compositeur, il parle pas vraiment de comment ça a été composé, dans quelles conditions, il va pas au bout des choses. Oui, moi je trouve ça vrai, mais en même temps, c'est les infos qui nous sont données sont déjà suffisante pour nous faire rêver, nous faire comprendre quelques trucs. Je veux dire, ça intéresse pas forcément.
Non, je comprends tout à fait. Mais voilà, c'est ça. C'est que il faut pas mélanger une info incomplète et une fausse information.
D'accord, très bien.
Si l'info avait été incomplète, si le mec avait dit Street Fighter 2, c'est un jeu de baston, c'est une info incomplète. J'aurais rien dit. Maintenant, il dit c'est le premier jeu de baston. Non, il y en a eu une dizaine avant celui-là. Donc c'est une fausse information.
Alors ce sera peut-être corrigé, espérons-le. Est-ce que t'as vu d'autres coquilles comme ça? J'appelle ça des coquilles, mais on peut parler ça. Oui, bon.
Non, parce que ça m'a rendu fou et je suis parti ailleurs pour me changer les idées. Donc...
À ce point, d'accord. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter donc sur ce musée? On peut quand même proposer. Voilà, allez-y. Si vous êtes un spécialiste du jeu vidéo, allez-y. Vous allez certainement trouver d'autres failles et vous nous en ferez part.
Je voudrais juste surtout en fait donner la parole à Maëva qui est quand même une fille et même si c'est une fille, ça reste quand même une gameuse et c'est pas mal d'avoir une avis aussi un peu féminine.
Ça m'a fait rire ce que tu viens de dire, Chouam. Même si c'est une fille, c'est une gameuse. Je vous ai perdu à nouveau.
Le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible.
On a été coupé.
Ouais, mais c'est pas grave, on continue. Ouais. Donc, tu voulais nous passer Maëva, qui, malgré le fait qu'elle soit une jeune femme, est aussi une gameuse, si j'ai bien compris.
Oui, elle est une gameuse, exactement. je leur passe.
Bonjour, oui, gameuse. Pardon. Oui, vas-y.
J'ai 25 ans, donc je connais pas non plus trop les vieilles consoles, PC Engine, Atari, c'était pas de mon époque, mais ça m'intéresse vachement. Et je trouvais ça important, surtout en France, qu'on fasse quelque chose, parce que l'Europe, ça a quand même beaucoup aussi influencé au niveau des jeux vidéo, et puis c'est quand même une culture qui est très forte dans notre génération, peut-être plus que la lecture même, peut-être plus que, enfin, donc voilà, c'était très important. Et pour le musée, j'ai trouvé qu'il y avait des belles pièces, je trouvais ça très intéressant, surtout qu'aujourd'hui, donc comme je le dis, il y a beaucoup de jeunes de plus en plus tôt qui se mettent aux jeux vidéo, et c'était important aussi pour moi de pas considérer le jeu vidéo comme juste on va jouer à la Nintendo DS, on va jouer à faire du cheval, à Léa Passion et à machin, et c'est important de savoir les racines d'où ça vient. Et
je me permettrai de rebondir là-dessus, excuse-moi.
Oui,
mais vous avez vraiment cette vision du jeune qui joue essentiellement à des jeux débilitants réellement?
Non, ça dépend, mais moi je vois en magasin il y a beaucoup de familles, de petits enfants qui viennent pour acheter ce genre de jeu, et moi quand j'étais petite c'était pas ce genre de jeu que je jouais, c'était bon, déjà on était à l'époque.
Ah non, bah oui. Moi non plus, quand j'étais petit, je jouais à des jeux impossibles. Je crois que j'ai pas fini un jeu avant d'avoir l'âge de 14 ou 15 ans, quoi.
Gamin. Mais c'est ça, il y avait une durée de vie, il y avait un univers.
Une difficulté. Pas doué. Non, ouais, entre autres, et puis une grosse difficulté quand même.
Non, mais maintenant, je sais pas, il y avait,
En gros, pour revenir à ce que tu voulais dire, c'est qu'en gros, ce musée permet de témoigner de ce qu'il y avait avant. C'est, de toute façon, c'est vraiment le patrimoine du jeu vidéo qui est réuni dans ce musée.
Voilà. Et c'est important qu'on sache comment ça a commencé tout ça, parce que il y a pas que maintenant la 3D super réaliste et tout ça, et on est aussi dans un univers ludique, imaginatif, et ça prend tout son sens pour moi dans la 2D, dans l'univers de l'époque, quoi.
Donc le papa ou la maman qui joue depuis qu'ils sont tout petits, qui ont des enfants maintenant, on peut imaginer, ouais, que s'ils vont au musée, tu vas te retrouver donc avec un papa et une maman complètement émerveillés avec toutes ces madeleines qui vont ressurgir, et puis des enfants qui vont découvrir tout ce que leurs parents ont vécu avant, et c'est donc une visite qui est assez intéressante pour tout le monde, quoi. Tout le monde s'y retrouve.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et après, petit point négatif, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de choses attractives, enfin de vidéos qui faisaient tourner du jeu. On a beaucoup de consoles, beaucoup de pièces de hardware, et on n'a pas beaucoup de jeux qui tournent.
Alors c'est ce que
parce que les jeunes aussi qui vont voir ça, enfin les enfants qui vont voir ça, ils vont voir les vieilles consoles, ça va pas forcément en fait leur parler, donc leurs parents peuvent leur expliquer, mais on
aura envie de les voir tourner, voir ce qu'elles donnent. La console, enfin, l'objet en lui-même est parfois joli, pas toujours d'ailleurs aussi non plus, mais ce qu'on a envie de voir, c'est de voir tourner les jeux, quoi, et éventuellement d'y jouer.
Surtout, oui, voilà, surtout qu'il y a des consoles qui sont très, enfin, qui sont particulières. Par exemple, je parlais avec Phil de la Vectrex. Je pense que c'est une console à montrer allumée parce que c'est une console très particulière. C'est
alors la Vectrex, c'est celle qui avait l'écran avec le paddle.
Ouais.
Le
graphisme vectoriel. Là,
ouais, moi j'avais joué à ça gamin. Il y avait un jeu, c'était pas Star Wars, mais il y avait un jeu de vaisseaux spatiaux qui était exceptionnel. On l'avait nous, hein, quand j'étais petit. Ouais. Et c'était ah ouais. Une très très bonne console. Ouais.
Non, voilà, donc je pense qu'il y a des consoles qui méritent de tourner. Bon, alors bien sûr, on peut pas faire tourner un Atari pendant 7 heures ou 10 heures ou.
Parce que, je sais même pas s'il est survivré aujourd'hui. Ouais.
C'est ça, voilà, ça chaufferait trop et ça fumerait et ça serait un peu...
Et ça mettrait le feu au musée, à l'Arche, et ce serait vraiment dommage.
Voilà,
très bien. Bon, je sais pas si on a parlé de tout, de toute façon je crois que Shoham t'as fait un paquet de prises de son, donc on va...
Oui.
Je sais même pas de quoi il s'agit, donc je peux même pas en parler, vas-y, je te laisse faire.
J'ai fait un petit micro-trottoir sur les personnes qui étaient présentes, que ce soit des journalistes dont professionnels qui donnent la raffi, comme mes amis de chez Gameopath, qui sont plus vraiment des gamers, plus que du grand public, mais aussi des gens du grand public, avec notamment un petit garçon qui était émerveillé devant ces nouveaux objets, qui était même curieux de découvrir ces objets et j'avais à côté son papa qui disait voilà, j'avais ça à l'époque, t'imagines pas à quel point c'était super, enfin tu vois, voilà, j'ai vraiment voulu un peu prendre la température de tout le monde et pas forcément que des journalistes, donc ça m'a fait plaisir. Il y avait aussi des étrangers, je suis désolé, je sais pas parler italien. J'ai pas pu l'interviewer.
Il va falloir que je fasse une traduction. Rassure-moi.
J'ai pas pu les interviewer, mais il y avait pas mal d'étrangers aussi.
Ah, parce que pendant...
Heureusement, pas assez de filles, donc s'il y a des filles qui écoutent Game Radio, n'hésitez pas à y aller, c'est pas que pour les garçons.
Oui, alors c'est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, hein, du lundi au dimanche, de 10h à 19h, ou de 10h à 20h, selon la saison. Alors je ne sais pas en ce moment, c'est la journée?
Oui, c'est la journée. Par contre, il faut que je te donne le prix. Je rappelle le prix.
Ouais, vas-y. Bah, je crois que c'est 10 euros l'entrée, mais c'est l'entrée de toute l'Arche.
C'est l'entrée,
hein,
pour le toit, ouais, en fait. Ouais. Voilà. On n'a pas qu'accès qu'au musée, on a accès à peu près tout pour 10 euros. Donc, musée de l'informatique, le super panorama qu'on a devant nous. Donc, voilà. C'était le prix. Après, les horaires, je ne les connais pas exactement.
Bah, je les ai donnés, mais bon, voilà. En tout cas, actuellement, a priori, c'est 10h, 19h tous les jours. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je crois qu'on en a terminé. Si, bah, donc, on va écouter. Là, je vais mettre à la fin de ce podcast toutes les prises de son que tu as fait ce matin. Oui. Donc, ce fameux micro-trottoir. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais le coller là à la fin de cette émission. Je remercie Gameopath d'avoir été présent tout au long de cet enregistrement un peu improvisé finalement. Merci à vous.
Merci à vous. Merci à
vous. Merci, c'est très
gentil. Bah écoute, on souhaite que vous continuiez à être le meilleur site de jeux vidéo du monde entier.
C'est pas ce que j'ai dit. Il faut pas déformer mes propos.
Mais j'ai oublié ce que tu as dit.
Tu l'écoutes pas, c'est pas sérieux.
J'écoute, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Puis il faut dire aussi que
j'ai dit qu'on était la référence pour le rétro gaming en tant que forum.
Voilà.
C'est déjà pas mal.
Le forum référence dans le rétro gaming, c'est Gameopath. Donc allez voir un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Moi je.
On mettra peut-être l'adresse sur l'article.
Ouais, on le rajoutera. Très bien. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Si je signale à nos auditeurs que la semaine prochaine, pendant une petite semaine, 5 jours, il y aura pas de podcast sur Game Radio, on part en vacances, voilà, on a bien mérité d'ailleurs. Donc pas de podcast lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On en fera peut-être un quand même dans la semaine avec un thème que je ne connais pas encore. Donc surveillez malgré tout le site de Game Radio. Il se peut que mercredi ou jeudi, il y ait un podcast qui débarque, un peu improvisé. Voilà, je terminerai aussi en remerciant Raven et Cake qui sont eux aussi devenus des nouveaux subscribes. Bon, voilà, je les remercie, comprendront pourquoi. Je vous donne rendez-vous donc peut-être dans le courant de la semaine prochaine. Sinon, le lundi suivant, Shoham, bah écoute, merci de t'être rendu sur le... Voilà, pris des risques, parce qu'en fait, t'es vachement haut, là.
Oui, bah je vais essayer de redescendre doucement. Hein.
Tu vas redescendre
je
de ton âge.
Je comme c'est hyper, hyper rapide. Je fais 35 étages en 10 secondes. C'est un peu impressionnant.
Ok, en tout cas, merci à toi de nous avoir relayé un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Bah écoutez, à très bientôt. Merci Gameopath, merci Shoham, ciao.
Merci beaucoup, ciao, ciao. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue donc sur Game Radio, je suis Shoham, je suis en direct du musée du jeu vidéo et je vais en direct vous faire partager mes opinions et mes avis et puis les avis des autres personnes qui sont présentes dans cette journée de presse et je serai ravi donc de vous donner à chaud mes impressions et ce qui se passe. Voilà. Donc là, une petite visite s'impose. Autour de moi, il est difficile de vous donner un avis sur le visuel. Je vous invite plus à venir pour voir ce qui se passe. Mais je peux vous donner un petit peu l'ambiance, ce qui se passe. Déjà, j'ai une borne devant moi qui parle avec des personnes qui regardent devant. Je vais
poser deux trois questions à une personne qui regarde. Bonjour.
Bonjour.
Tu es devant une borne qui explique apparemment l'histoire du jeu vidéo. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est un bon moyen pour les personnes, les jeunes personnes, je veux dire, et les personnes même qui ne connaissent pas le jeu vidéo, la culture vidéoludique, de découvrir les classiques du jeu vidéo qui ont fait toute l'histoire, quoi.
D'accord. Et vous, monsieur?
Oui, un peu la même chose, hein. C'est beaucoup plus accessible. Les personnes qui ont pas trop envie de lire peuvent s'intéresser facilement et voilà, quoi. C'est très accessible.
Là, on vient d'arriver, bien sûr. Vous avez vu des trucs qui vous semblaient vraiment intéressants et qui pourraient être découverts par le public?
Ouais, au niveau des consoles portables, il y en avait que j'avais jamais vu ni même entendu parler. Donc là, c'est vraiment une surprise de les découvrir ici au musée du jeu vidéo.
D'accord. Et vous?
Moi, j'ai apprécié pouvoir rejouer à Pac-Man et à Pong sur grand écran. C'est vraiment.
D'accord. Donc on peut jouer en fait. Alors.
On peut jouer. On peut avoir accès à des jeux qui ramènent la nostalgie, du rétro gaming. C'est vraiment très intéressant.
Je vais essayer ça moi aussi tout à l'heure. Hein. Je crois que la conférence a pas tardé à commencer. Puis je vais voir un petit peu les gens qui sont autour. Je reviens vers vous. Voici de retour donc au musée du jeu vidéo avec toute une vitrine de consoles qui sont présents, beaucoup de journalistes présents aussi. Je vais passer un petit peu autour des gens. Bonjour. Bonjour. Rapidement, donc là on est devant une vitrine de consoles portables que vous devez connaître pour la plupart. Quelles sont les consoles là que vous retenez?
Alors en fait là on est devant une vitrine de consoles très récentes. Donc moi je suis un petit peu plus âgé, donc c'était plutôt la vitrine d'à côté que je connaissais.
On va y passer alors.
Je reconnais la célèbre Game Boy, la toute première, avec un écran noir et blanc, 89, sur laquelle j'ai beaucoup joué. Et toutes les autres là je les connais un peu moins. Mais on se rend pas compte qu'il y avait autant de consoles à cette époque, en 89. Voilà. Et puis ensuite, ça a pas mal évolué. Hein. La vitrine dans laquelle on était juste après, c'était les années 2000.
Tout à fait, oui.
Ça a beaucoup évolué, mais finalement, les tailles, ça a un tout petit peu réduit. Il y a plus de couleurs, mais ça a pas tellement changé.
Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les écrans sont les mêmes que maintenant, en fait, contrairement à ce qu'on pense maintenant.
C'est vrai, vous avez raison. C'est quoi? C'est 5 cm par 4 pour les consoles portables, hein, pas plus.
Finalement, effectivement, ça change pas. Madame, j'ai plus affaire à une femme. Est-ce que vous connaissez déjà ces vieilles portables ou
La Game Boy aussi, hein, même pour les filles.
D'accord, même pour les filles qui jouaient à Pokémon et tous ces jeux.
Et Pac-Man, voilà. Et puis la loupe pour la Game Boy aussi.
Ah oui, d'accord. Ça vient aussi la loupe pour les yeux.
Derrière que les parents donnaient dans la voiture pour pas qu'on fasse trop de bruit.
Ah oui, justement, il y a les Game & Watch aussi. Alors là, des choses que je crois que les moins de 20 ans ne connaissent pas actuellement. C'est des choses qui paraissent un peu à cristaux liquides, c'est ça? Là, vous, des trucs que vous devez pas connaître, certainement.
Si j'ai plus de 20 ans, je vous rassure.
Non, mais il y a des titres que je pense que vous aviez pas tous, je pense.
Je les avais pas tous.
Un titre là, en de mémoire.
Il y a le célèbre Donkey Kong qui s'ouvre. Tout le monde connaît ce jeu là qui. La console qui s'ouvre, marron, où on jouait avec, c'était un jeu de plateau. Si, celui-là, il est célèbre, Donkey Kong.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est le plus connu et c'est celui qui a remporté le plus de succès. Ok, bon, merci beaucoup. Merci. Là, je passe donc une petite... d'une vitrine à l'autre avec des gens qui regardent. Bonjour.
Salut.
Tu as des vitrines devant toi. Est-ce que tu connais ces consoles et ces machines?
Non.
Pas du tout? Aucune d'entre elles?
Non. Pas du tout.
Viens plus par là. Là-bas, regarde, il y a une vitrine là-bas avec toutes les consoles que tu dois plus connaître. Voilà, laquelle tu reconnais là?
La Game Boy Advance.
Game Boy Advance, de quelle couleur?
Toutes.
Toutes? Tu t'en as pas une préférée pour toi?
La rouge.
La rouge, ah, c'est vrai qu'elle est plus jolie là. Et t'en connais pas une autre là que tu dois reconnaître? Celle-là peut-être la grosse là?
La PSP.
La PSP, tu vois, tu finalement t'en connais des choses sur les jeux vidéo?
Oui.
Très bien. Merci beaucoup. Merci.
vous êtes son père ?
Oui, tout à fait. Oui.
Vous, vous devez être un peu plus connaisseur.
Moi, je connais plutôt là-bas.
Ah, plutôt là-bas, du côté des très très vieilles consoles. Vous avez une console là que vous aviez chez vous, par exemple ?
Non, j'en ai eu une en prêt, mais je la retrouve. On m'avait prêté ça pendant, je sais pas, 15 jours.
Vous n'en aviez pas une autre là quand vous étiez jeune que vous rêviez d'avoir ? Une fameuse console qui était à l'époque l'ultime console que tous les jeunes devaient avoir ?
Non, en fait, moi j'étais plutôt branché informatique. Et donc, l'ordinateur, ça fait aussi console de jeu. Donc, j'avais un Commodore 64, j'espère en voir un quelque part dans le coin pour lui montrer à quoi ressemblait mon premier ordinateur. Parce que maintenant, on en a 3 ou 4 à la maison.
Bah, très bien, oui, effectivement, là, je crois que c'est le meilleur lieu pour faire le lien entre ce que vous connaissiez et ce que connaît ce jeune garçon. Et toi, tu dois être une curiosité ici. Qu'est-ce qui t'a fait pousser à venir ici ?
Bah, les jeux vidéo.
Ah, bah, les jeux vidéo, forcément. Il y a des choses que t'as envie de voir particulièrement ?
Bah, oui, les anciennes consoles comment on s'occupait dans le temps avec les jeux vidéo.
Tu as bien raison, parce qu'effectivement, on s'amusait comme toi maintenant aux jeux vidéo. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, bonne visite, hein. À bientôt. Là, je passe d'une console à une autre. Là, je tombe donc sur les vieilles Master System et autres consoles de Sega et de Nintendo. Il s'agit donc, ce fameux grand Power Glove que tu dois connaître, Gus. il s'agit d'un gant qui faisait un petit peu office de Wii à l'époque, hein, n'est-ce pas? Et qui était un peu un précurseur du jeu des capteurs de mouvement. Vieille curiosité que nous avons ici. Hein, je vais peut-être passer un instant pour interroger 2-3 autres personnes. Excusez-moi, vous êtes en pleine discussion. Je peux vous poser 2-3 questions sur la vitrine. Là, on est devant en fait des Super Famicom et des Mega Drive. Qu'est-ce que vous retenez en fait de cette génération de consoles 16 bits ?
Eh ben personnellement pas grand-chose puisque j'étais pas encore joueur à l'époque. J'en connais que ce que racontent les chroniques de rétro gaming des magazines de jeux vidéo. Enfin que j'en retiens quand même parce que bon j'ai tout de même joué à la Super Nintendo chez un pote, c'est que à l'époque quand c'est arrivé, je me disais bon. Je voyais les graphismes de Mario Kart, des trucs comme ça, et je me disais, on fera jamais mieux. Je me suis bien planté.
C'est sûr, là, depuis, forcément, ça a pas mal évolué beaucoup. Je vois une Virtual Boy, c'est une vraie curiosité pour personnes qui sont... Vous savez ce que c'est ?
Un super brattage qui a coûté au créateur de Game Boy son boulot, si je me souviens bien. C'est lui qui avait fait le forcing pour la créer et il a assumé l'échec commercial en démissionnant. Je pense juste que la technologie était pas prête, quoi. Elle était pas prête. Hein.
Surtout que maintenant on va avoir la 3DS, donc on n'a pas beaucoup d'évolué, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu de la 3D mis sur les yeux des utilisateurs.
Ouais, mais d'après ce que dit Nintendo, ce sera sans lunettes, puis surtout, ce sera pas une espèce de brique rouge de 8 kilos à poser sur la table qui niaque le cou de tous ceux qui essayent de regarder dedans.
Je rappelle aux auditeurs ce que c'est que la Virtual Boy. C'était une espèce de lunette peu virtuelle que l'on mettait sur les yeux, qui était posée sur la table et qu'on mettait les yeux dessus pour voir les images qui étaient rouges 3D, qui étaient assez moches en fait à l'époque. Surtout ça mettait mal de tête, mal de crâne absolument horrible au bout d'une heure, deux heures. Et c'était un ratage pour Nintendo, hein, des ratages de Nintendo.
Et pourtant, il y avait des bons jeux dessus qui exploitaient vraiment la 3D pour le coup. Alors, je me souviens d'un Wario Land qui se jouait sur deux niveaux, un peu comme Little Big Advent Planet. Voilà. Un peu comme Little Big Planet, où vraiment ça exploitait la 3D. Je crois même qu'il y avait un effet de flou suivant le niveau, enfin suivant si on se trouvait devant ou derrière. Il y avait quelques bons jeux, mais c'est juste qu'au niveau de l'ergonomie, c'était juste ignoble. D'ailleurs, on le voit là. Ça ressemble à rien. Elle a l'air de dire « Ah, pitié, achevez-moi
!» Finalement, on la met au musée, c'est ce qui est au mieux. C'est bien sa meilleure place.
Ouais, mais en même temps, c'est en accumulant ce genre d'essais un peu foireux qu'ils ont fini par sortir la DS et la Wii. C'est en expérimentant qu'ils ont fini par faire des succès aussi colossaux que la DS ou la Wii. Hein.
D'accord. Rapidement, quel magazine vous travaillez ?
Joystick.
Joystick, ok. Bah, merci. On a un grand magazine qui parle pour Game Radio. Merci beaucoup. Votre pseudo quand même.
Savon fou.
Savon fou. Merci beaucoup. À tout à l'heure, hein, pour la conférence de presse. Excusez-moi. Hein. Là, nous sommes devant une vitrine des Jaguar, Saturn. Tout est en fait des 32 bits. Et bien sûr, bien entendu, la PlayStation qui a eu le plus gros succès de cette génération. Et des petites curiosités. Ils sont très bien au musée d'ailleurs. Bien mieux au musée que devant nos écrans. Il s'agit du CDI.
avec les fameux jeux de Link et de Zelda qui étaient les pires séries, la pire jeu de Zelda. C'est un Zelda qui n'a pas été fait par Nintendo, donc forcément un ratage. Et là, nous avons bien entendu la génération des consoles 32 bits. Il s'agit donc de la PlayStation 2, de la GameCube et de la Xbox. Là, devant nous, exposé devant un musée, c'est même assez. Ça fait un effet bizarre. Ça, on a l'impression d'être d'un coup relégué au musée, pour ma part, avec des curiosités aussi qu'on voit nulle part, notamment la PlayStation 2 rose avec son petit micro rose, c'est très mignon, et puis d'autres choses que je sais pas ce que c'est, PPH, c'est une multitap, effectivement, et bien entendu les différentes PlayStation 2 qui sont sorties, notamment la version dorée, et la version blanche, qui sont assez classe. J'aurais jamais pu voir qu'elles étaient aussi classe. Et bien sûr, la PS2 Slim, que tout le monde a peut-être encore joué dessus, certainement, et les différentes GameCube, notamment les spéciales Tales in Symphonia et Final Fantasy Crystal Chronicles, et le petit micro qu'on utilise pour jouer à Mario Party. Je vais passer à l'instant suivant, avec d'autres consoles, d'autres curiosités. Bon, c'est pour donner un petit peu mon avis, c'est pas un très grand musée, il y a qu'une seule pièce finalement, mais qui tend un petit peu à évoluer, à grandir. Alors là, je passe au stand des jeux vidéo où on peut jouer à Pac-Man. Ah, c'est la dame de tout à l'heure que j'ai interviewé qui va jouer. Non, mais allez-y, de toute façon, il y a pas d'image, hein. Vous inquiétez pas. C'est que audio. Je filme personne et en plus elle se débrouille très bien. Ça doit faire quand même bizarre de rejouer un vieux Pac-Man comme ça sur arcade.
Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. De revoir ça, je pensais que ça c'était plus joli quand même. Là, on voit quand même que ça a évolué.
Finalement, nos souvenirs sont assez édulcorés, quoi.
Ouais. En fait, là, il est assez fade le Pac-Man. J'avais dans l'idée, mais il y avait un dessin animé Pac-Man aussi qui était un petit peu plus joli, donc là.
Ah, peut-être c'était ça qui faisait que c'était plus beau.
Dans mon idée. Ah, il y a eu un bug là par contre. Non, finalement c'était assez bien fait, il y avait pas trop de.
Au niveau gameplay, c'est toujours aussi dur?
Il y a 4 directions, quoi. Il y a 4 axes sur la manette, pas plus. C'est haut, bas, droit, gauche et c'est tout.
Ah, elle a perdu. C'était presque fini en plus. Donc nous allons faire un Game Radio Online sur Pac-Man. Je crois qu'on va être ravis. Donc de pouvoir jouer tout en parlant. Elle est concentrée, elle a bien raison. Je l'interview pas en même temps parce qu'elle va être complètement éperdue. Ah, attention, elle a terminé le niveau. Ah bah bravo. En perdant combien de vies ou une vie? Ah, une vie, bah bien, ah, c'est pas mal. Ah, moi je sais que le premier niveau, j'ai mis du temps avant de le finir. Ah bah je sais bien. Ah bah ouais, mais moi le problème c'est que... Oula, très très mal. Attention, je tourne à gauche, j'essaie d'avoir... j'ai pas perdu la main quand même. Je pense qu'il y a un peu du mal. Ah, les bandes d'arcade, c'est pas mon truc. Attention, je passe... Je vais manger encore un pack gomme, hop. Oh, allez, hop, j'ai réussi à l'avoir. Ah. C'est super dur à descendre en fait. Ah bah voilà, j'ai perdu ma vie. Bah, je vais finir ma dernière vie et puis je vais laisser tranquille. Ah bah voilà, là j'ai toute une ligne, je peux la faire tranquillement. Je remonte. Attention. Ah, une pack gomme, je vais essayer de manger les fantômes. Ah, ils se barrent en fait. J'ai jamais fait gaffe, je pensais pas qu'ils partaient. Ah, c'est super dur de. Et je sais pas comment ils font pour jouer avec ça hein, à l'époque. Hein. Ah oh, ouf. Moi je dis les jeux d'avant, c'était super dur. Ah. Ah bah j'ai perdu, voilà, et elle est plus forte que moi finalement. Elle a réussi à me gagner. Merci beaucoup, au revoir. On va passer donc à la conférence de presse. Il n'y a plus personne effectivement. Je me suis fait avoir. Pac-Man m'a pris trop de temps en fait. Bon, je suis de retour au musée du jeu vidéo. Donc après la conférence de presse, j'ai avec moi un journaliste rédacteur sur un site internet dont il va me parler tout à l'heure. Ah. Déjà, avant d'avoir quoi que ce soit, d'abord ton opinion sur la conférence de presse et plus généralement sur le musée du jeu vidéo.
Écoute, je pense que de toute façon, un musée, c'est une bonne idée. Bon, la conférence de presse, c'était une conférence de presse classique, hein, y a rien à dire là-dessus. C'est une bonne idée, c'est un bon début. Je pense qu'il y a encore quelques petites choses à travailler pour que ça avance. Mais le but d'un musée aussi, c'est d'être évolutif, quoi. Tu laisses pas toujours la même chose du début à la fin de l'existence, quoi.
D'accord. Et tout à l'heure, dans la conférence de presse, tu t'es un petit peu pas énervé entre guillemets, mais t'as intervenu de manière un peu vive. Qu'est-ce qui pour toi fait que le musée est pas tout à fait à ta convenance?
Non, je dirais pas qu'il est pas à ma convenance. Déjà, l'agacement que j'ai éprouvé était pas par rapport au musée lui-même. C'est deux choses différentes. J'ai simplement déjà demandé ce qu'il en était des bornes d'arcade. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une part importante du jeu vidéo. Surtout quand on parle de culture venant du Japon, les bornes d'arcade, il y en a eu dans le monde entier, mais c'est vraiment là-bas que ça a marqué quelque chose. Donc je pensais que c'était important. À l'entrée, on voit qu'il y a de la place, il y a quatre bornes, ça serait sympa d'en mettre un peu plus, qu'ils soient plus représentatives. À côté de ça, non, mon agacement, c'était sur le fait qu'effectivement, quand tu veux des avis d'experts, il faut faire un choix, et que je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est dit dans certaines petites courtes vidéos qu'on a vues. Et que effectivement, moi, je suis très critique par rapport à ça, et je pardonne pas généralement ce genre d'erreur. Après, c'est rien, c'est une petite erreur comme ça. 95% des gens qui vont écouter le documentaire, ils prêteront même pas attention. Donc voilà, non, et ça n'a aucune incidence sur mon ressenti par rapport au musée. Non, je trouve que c'est une bonne idée. Il reste du boulot effectivement, mais c'est un bon départ.
D'accord, très bien. Alors, on va parler un peu de ton site. Enfin, un petit peu de promo, vas-y, parle-moi de qui tu es et puis surtout quel est ton site.
Donc moi, je suis un patient sur le site hôpital Gamopath, en fait, qui est un site de fans de rétro gaming principalement. On est vraiment beaucoup plus concentré sur les anciennes consoles, sur l'époque Atari, Nintendo, enfin tout ce qui est un petit peu avant la crise et un petit peu après. Voilà, c'est sympathique. C'est un site et un forum qui se présentent un peu comme une sorte d'hôpital avec des gens qui voudraient se soigner. Bon, moi, je fais partie des gens qui sont internés à vie, je pense, avec aucune possibilité de revenir soigner. Enfin voilà, si vous avez la possibilité de venir, Gamopath, hein, Google est votre ami, vous allez trouver. C'est très sympa et bonne ambiance. Il y a pas de tordu et les gens sont cool. Voilà.
Gamopath, donc voilà.
Gamopath. Je vous laisse chercher le reste. Un petit peu de boulot, ça fait de mal à personne.
Merci. En tout cas, il y a des choses qui s'expliquent effectivement dans ton site et par rapport à ta passion qui est bien ressentie. J'ai une demoiselle à côté de moi, est-ce que je peux me permettre de poser quelques questions parce qu'on n'a pas beaucoup de filles dans le coin, donc justement j'en profite. Déjà, toi, un musée du jeu vidéo, c'est une chose que tu voulais, que tu imaginais, ou c'est un truc complètement nouveau qui te paraît un peu fou?
Oui, alors moi j'ai beaucoup attendu ça parce que je me suis dit qu'on n'a pas vraiment pour notre ère quelque chose qui représente vraiment les jeux vidéo. Ce que les jeunes font principalement aujourd'hui, c'est quand même la culture ludique, c'est quand même très important, et je pense que c'était vraiment essentiel aujourd'hui de faire ça, oui.
D'accord. Et tu crois que le résultat est ce que tu attendais, ou t'attends encore plus? Toujours plus, tu vois.
Ouais, toujours plus. Non, le résultat est pas mal. Il y a quand même de très belles pièces exposées. Après, je suis un petit peu d'accord avec la personne avec qui je suis venue. Je pense que ça manque un petit peu d'interactivité, de vidéos. C'est vrai que la cible, apparemment, au niveau des visiteurs, ça vise principalement les jeunes qui viennent en famille, ce que disaient les deux personnes à la conférence. Et je pense que les jeunes, quand ils voient certaines consoles, vont pas comprendre qu'est-ce que c'était l'origine des jeux avec lesquels ils jouent maintenant, sûrement, donc en 3D sur la PS3, sur la DS, sur des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que je pense pas qu'un gamin de 10 ans va aller regarder un reportage d'une demi-heure ou une heure. Enfin, ce serait sympa qu'on ait l'info directe, le visuel de la console qu'on voit exposé, quoi.
Ça va, c'est des bonnes critiques effectivement qui vont certainement prendre en compte, et ce n'est là que pour améliorer, en fait. C'est des critiques constructives, et je pense que c'est une bonne chose. Une dernière question, tu travailles pour qui?
Non, moi je suis indépendante.
Ah, t'es indépendante.
Voilà, ouais, je suis freelance graphiste illustratrice, donc voilà, c'est très important pour moi le jeu vidéo parce que je trouve que c'est une branche où justement la créativité peut vraiment s'exprimer, et il y a de grandes choses à faire encore. Voilà.
D'accord, donc une gameuse, c'est plutôt rare. C'est effectivement là un objet que tu retiens dans le musée qui vraiment t'apporte de très bons souvenirs.
Moi, j'ai un petit coup de cœur pour la Vectrex.
Vectrex, d'accord. Explique-nous ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément.
Alors, c'est une console. Je l'ai pas découverte il y a si longtemps que ça, mais c'est une console où tous les jeux sont vectorisés, en fait. C'est un petit peu l'ancêtre de la 3D pour moi. C'est-à-dire que c'est pas de la 2D, c'est pas du sprite. Enfin, c'est assez particulier. Et c'est une console en noir et blanc où tu mets des filtres de couleurs devant, et c'est du jeu de shoot, du jeu de course. Et tout est dessiné en traits, voilà, vectorisés, ça s'appelle, et des filtres colorés que tu mets devant, donc l'écran noir et blanc pour faire la couleur, et c'est très brillant, c'est assez beau, les musiques, le petit pad façon arcade en plus, moi j'aime beaucoup, voilà.
D'accord, bah merci. Donc je recontinue ma petite visite, parler un petit peu
gens qui m'entourent. Je m'assieds au milieu de la conversation. Là, on est devant la vitrine des vieilles consoles portables. C'est un peu la vitrine qui est au milieu, donc à chaque fois, je reviens dessus. Donnez-moi un petit peu vos préférences, pas forcément sur le portable là, mais sur le musée en général. Quelles sont les consoles là que vous retenez?
Alors moi, pour le moment, j'ai pas encore tout vu, mais par contre, ce qui m'a vraiment plu, c'est de revoir la Lynx. Parce que j'avais celle-là, là, la toute première, là, de 89. Et quand je revois la 2, je me dis, mais les consoles portables, à l'époque, en fait, c'était vraiment des frigos. Et on était contents. Alors maintenant, quand on voit la DS XL, la LL, là, qui est sortie récemment, tout le monde dit, ah, oh, c'est trop gros. Mais quand on voit avec quoi on jouait avant, on était super contents, quoi. Et là, pour l'instant, là, je suis plutôt sur le revival vieille console et je kiffe vraiment. En tout cas, il y a des belles pièces et ça fait vraiment plaisir.
D'accord. Ouais, finalement, c'est vrai qu'en plus les écrans ne sont pas si petits que ça. Enfin, nous, on voyait des grands écrans à l'époque et la différence n'est pas si énorme hein, par rapport. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah ouais, on va dire que c'est bon. La différence, bon, c'est la couleur, c'est tout ce qui est technique, technologique dedans. Mais c'est vrai que les formats d'écran, ça reste à peu près les mêmes. Bon, c'est quand même un peu plus petit, mais c'est surtout le contenu, la console en elle-même qui a vachement rétréci. Mais bon, voilà, c'est une époque, ça change. Mais j'ai l'impression qu'ils reviennent justement à réagrandir les consoles portables. Ils sont partis comme les portables, en fait. Ils ont miniaturisé. Là, maintenant, on a des smartphones. Là, je pense que c'est pareil pour les consoles portables, quoi.
D'accord. C'est bien, c'est intéressant effectivement de voir cette tendance et voir un petit peu comment évolue le marché. Et ça te peut aussi donner des indices sur la suite. Pour finir, le site ou métier sur lequel tu travailles.
Moi, c'est le blog dirtgamers.fr. Donc voilà, on est un peu présent partout sur Overblog, tout ça. Donc c'est Lorenzo. Et puis j'étais ravi d'être interviewé par
Game Radio. Voilà. Je ne suis pas présenté. Gameradio.fr.
J'écoute le podcast. Il y a un podcast.
Ah bah oui, bah ouais, c'est pour le podcast. Donc tu vas passer au podcast Game Radio.
Je l'écoutais il y a deux jours. Bah, enchanté.
Ah voilà, des fans.
C'est
voilà,
qui
merci.
De Game Radio.
Choam.
Ok, d'accord. Voilà. Choam, enchanté.
Voilà. Super. Merci à avoir des fans. J'ai jeuxvideo.org qui est à côté de moi, que je connais, hein, qui est un ami que je connais, que je rencontre souvent dans les salons. Donne-moi un peu ton avis sur le musée. J'ai pas eu encore ton avis sur le musée de jeux vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, dans l'ensemble, j'étais en fait très surpris par la diversité. De proposer autant de machines sur un espace aussi restreint. Enfin, par rapport en plus avec la polémique qu'il y avait eu avec MO5, je pensais pas qu'ils allaient réunir autant de machines, mais finalement, je suis vraiment bluffé. Parce que là, certes, il y a pas tout, mais il y a vraiment un grand panel de consoles. Alors, c'est vrai que les consoles portables, moi, c'est un vrai coup de cœur. Là, on retrouve quand même quelques pièces rares et certains coloris que j'avais jamais vu en vrai, la Game Gear en jaune. Ça vaut vraiment le détour, hein.
La petite Game Gear en jaune avec les boutons verts, c'est un goût un peu spécial, mais c'est une vraie curiosité, effectivement.
Voilà. Et en plus, là, ils l'ont équipé de la radio FM. C'est un petit accessoire qui se pluguait sur le port cartouche. Et vraiment, rien que pour ça, moi qui l'avais jamais vu, enfin, on découvre des nouvelles choses et pourtant on est dans le milieu.
C'est un tuner TV en fait, c'est pas la radio, c'est un tuner TV qui fonctionne au Japon.
Oui, exact, effectivement.
Ça permet de regarder la télé sur ta Game Gear.
Donc c'est encore plus bizarre, on n'a jamais eu ça en France effectivement, et c'est un bel objet, merci pour la précision.
Ouais, effectivement, là je confonds avec le tuner FM qui existait pour la Game Boy. J'avais complètement zappé qu'il était FM, parce que c'est vrai que la Game Gear avait la couleur bien avant tout le monde.
Oui bien sûr, et d'ailleurs c'est ce qui faisait en tout cas c'était ça l'atout, hein, la ouais. console.
Ouais, par contre les supplies la mettre dedans
exactement.
Sinon, une petite larme aussi pour la Supervision qui a pas vécu très longtemps et que j'avais eu, qui proposait en fait l'un des plus grands écrans en termes de console portable. Enfin, c'est un gros écran carré, alors qu'on est tous habitués à du 16:9. Sinon, je voudrais quand même un gros coup de cœur aussi pour la belle collection de Game & Watch qu'ils ont, parce que elle est très complète, et je suis en train de demander si elle est pas plus complète que ce que Nintendo Expose, le Nintendo World Store à New York, j'avais vu. Je suis en train de me dire que là,
ils ont fait du gros boulot là, au niveau Game & Watch. Et c'est vrai que moi, c'est un petit peu l'arme à l'œil que je vois ça, parce que j'avais aussi, comme beaucoup de jeunes à l'époque, avec la Game & Watch, non seulement Zelda, je crois que je sais pas s'ils l'ont, j'ai pas vu, mais ils ont la Donkey Kong 2, je crois que j'ai jamais vu celle-là. Hein, moi, t'en avais une toi, à l'époque?
Non, j'en ai pas eu. Hein. Je voyais des potes jouer avec, et très jaloux d'ailleurs, et là je suis super jaloux.
Je comprends, oui.
Sinon, après, sur
console de salon, oui.
Voilà, en console de salon, je pense que il y a des machines inconnues du grand public, parce que là on remonte vraiment avant la NES. On a les Amstrad, on a des Atari, on a le Power Glove, là que j'y pense en parlant NES, et je le vois là à l'instant. Alors le Power Glove qui est un peu le gant qui servait de contrôleur, un peu du futur.
Un peu l'ancêtre de la Wii et de la Wiimote, non?
Voilà, c'est un peu ça, et c'est juste hallucinant de le revoir là, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'est à San Francisco dans un magasin de mode, qui était dans la vitrine sur un mannequin, je me demande ce qu'il faisait là. Et sinon, après, au niveau des machines, ils ont même des pièces très rares. Et tout à l'heure à la conférence, ils nous expliquaient que je les ai pas encore vus, mais des carnets de notes sur Another World.
Oui, oui.
Carnet original. Donc là, je vais m'empresser d'aller le voir, parce que c'est des pièces vraiment pour les passionnés. C'est vraiment intéressant de voir comment on a travaillé pour faire ce jeu-là. Et
c'est des pièces uniques, hein. Il avait dit. Hein.
Pièces uniques, ou sinon il a la Boombox.
La Boombox. c'était les carnets de... Non, c'est pas ça que tu parles.
C'est l'exemplaire où il y en a que 10 dans le monde. Ils en ont un exemplaire qui est en fait l'ancienne de... Ah, le nom m'échappe.
Non, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci. Oui, un appareil dont ils ont 10 exemplaires dans le monde, qui existent dans le monde, ils en ont un ici. Et ouais. C'est assez extraordinaire. Bah, pour le commun des mortels, c'est juste n'importe quoi. Mais pour nous qui sommes gamers et qui sommes passionnés, c'est vrai que... Ça a l'air une pièce unique, effectivement.
Mais même pour les personnes qui sont pas passionnées, pour les personnes qui connaissent vraiment rien, qui connaissent juste la PlayStation 1 et qui ignorent en fait tout ce qu'il y a avant, ils vont découvrir un tas de machines ultra colorées qui finalement sont pas grises, pas noires, mais de toutes les couleurs, parce qu'à l'époque, certes, c'était des jouets pour enfants un peu, et donc forcément on avait des couleurs flashy. Finalement, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir des couleurs flashy. Ça met un peu de gaieté.
Effectivement, oui. D'accord. Sinon, un petit mot sur ton site, parce que
jeuxvideo.org est un site qui parle en fait beaucoup des à côté du jeu vidéo. Donc pour ceux qui veulent de l'actu jour pour jour, nous on prend que vraiment l'essentiel. C'est un site quand même pour des passionnés. On parle de game culture, de tout ce qui tourne autour des jeux vidéo, des cosplays aussi, parce qu'on sait que les geeks aiment les cosplayeuses. Et aussi nos petits coups de cœur, coups de gueule sur le monde du jeu vidéo. Et plein de jeux bizarres qui sortent du Japon de temps en temps, on les teste. Et ça nous fait plaisir de montrer qu'il y a aussi des petits éditeurs. En passant, des petits éditeurs français, hein, je pense à Arkedo qu'on a vu.
On connaît.
Voilà, Arkedo, mais... Il y en a d'autres, il y a Make and Sleep, il y a Pasta Games, et on veut aussi aider ces jeunes créateurs français, donc les petites créatures de tout le monde, mais aussi les Parisiens, parce qu'on est quand même situé sur Paris.
Très bonne chose. Et puis, tu écoutes Game Radio ou pas?
À vrai dire, non, j'ai pas le temps. Quant à moi.
C'est pas bien. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup. J'ai une tablette tactile. On peut voir des reportages sur un énorme écran de plus de 50 pouces au moins. Et qui est complètement tactile, puisqu'apparemment ça a l'air un peu ressembler à la Surface au niveau voilà. J'ai un utilisateur là justement qui est en train de regarder, passionné par la vidéo. Je lui présente pas un petit peu la tablette tactile, même si tu dois pas forcément la connaître.
Alors apparemment il y a plusieurs sortes de contenus. Il y a de la vidéo, des photos, des images, du texte aussi. Apparemment ça marche via une sorte d'interface infrarouge, donc c'est pas entièrement tactile. Et c'est sympa parce qu'il y a des petites vidéos YouTube sur notamment les différentes publicités qui sont passées. Là par exemple c'est PSP. Ouais, là on reste dans des publicités quand même assez récentes.
Donc c'est des toutes différentes publicités de la PlayStation ou Nintendo.
Ouais, voilà, mais en fait il y a toutes sortes de contenus. Toutes sortes de contenus, on peut revenir ici, back. Après t'as tout ce qui est game culture. Ah, allez reviens. Bon, ça nécessite un petit temps une petite mise en main, quoi. Mais sinon, game culture, on retrouve des.
C'est Artworks, c'est ce que je vois un peu de. Ou des fans, d'images de fans.
Ouais, voilà. Artworks, comment on appelle ça déjà? Des détournements de pochettes aussi.
Parodie, ouais, des parodies, détournements de pochettes.
Alors, détournements de pochettes.
Je crois que tu peux l'agrandir avec les deux doigts.
Non, ouais, si, ouais, exact. Voilà. Donc là, c'est un Mario un peu bourré. Enfin, je sais pas. On dirait le style des. Comment ça s'appelait déjà? C'est pas les Tiny Toons?
Bob l'éponge, non?
Pas Bob l'éponge non plus, mais c'est dans le genre des Tiny Toons. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Il y a plein de trucs à faire. Bon, évidemment, c'est un peu difficile à prendre dans les débuts, mais bon.
D'accord. Merci beaucoup.
Mais de rien.
je laisse continuer à t'amuser. Il y a beaucoup de choses apparemment. Hein. Il y a pas mal de.
Ouais, j'ai une petite préférence pour les publicités. C'est il y a des collecteurs dedans. Notamment, d'accord. Je sais pas si j'arriverai à la retrouver.
Il y en a un que tu veux particulièrement parler ou montrer là que.
J'ai bien marré. C'est une pub française pour Pac-Man. Là, voilà. Les fantômes existent. La preuve, Pac-Man les mange. Ouais, elle est cool. Hein. C'était pour Pac-Man sur Atari d'ailleurs.
Ah, les collectors, celle-là, effectivement.
Ouais, franchement, les collectors, ça ferait bien dans mes toilettes.
Bah, écoute, je suis sûr qu'ils peuvent la vendre, donc la donner.
J'espère, ouais. Faut voir.
Bon, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir donné un petit peu ton avis sur Game Radio. Tu travailles pour un journal
Ouais, du coup, je vais faire la promo de Culture Games. C'est un site internet. Bon, évidemment, la bêta du site ouvre ce matin, normalement. Donc, culturegames.com. Et c'est un site, en fait, qui regroupe une encyclopédie et des news au format Twitter, Facebook, ou alors tout simplement au format HTML, quoi, sur un site internet normal. Et donc voilà, quoi, c'est un très bon site que je conseille vivement.
Attends, on n'a pas trop discuté tout à l'heure, on a parlé de la table tactile. Déjà, peut-être vous présenter.
Sébastien Pilet de la société ErgoSum.
D'accord.
On est partenaire justement sur le musée des jeux vidéo avec Alberto.
D'accord, bah parfait.
Voilà. Et on met à disposition la table tactile ainsi que l'hologramme, donc toutes les nouvelles technologies en fait.
D'accord, donc effectivement, c'est cette fameuse hologramme là, moi ouais. J'étais un peu impressionné. C'est un peu l'avenir du jeu vidéo, entre guillemets, l'hologramme, non ?
Ouais, on peut dire ça. Bah, disons que là, on peut donner vraiment matière au personnage et à tout ce qui peut être entouré. Donc là, ça peut être vraiment quelque chose de très sympathique. Ouais. Mais bon, il y a encore quelques années avant qu'on voit ça dans les salons des gamers, tout simplement.
Vous travaillez en fait sur cette technologie, ouais. Parce que j'ai compris, vous êtes en constante évolution, j'imagine, surtout avec l'arrivée de la 3D là, qui.
Ouais. Tout à fait. Bah, tous les écrans qu'on peut dire radioscopiques en fait ou stéréoscopiques, où là, il y a vraiment une forte demande. Donc, on attend vraiment les applications jeux vidéo ou autres. On puisse exploiter à fond cette technologie. D'accord. Mais là, la technologie holographique est vraiment différente de tout ce qui peut être 3D.
D'accord. Ouais. Et vous êtes en contact justement avec des sociétés de jeux vidéo Nintendo, Sony, Microsoft ?
Non, pas encore.
Encore ? Même pas me contacter, d'accord.
On attend, ouais.
C'est bien dommage. Mais en tout cas, c'est une belle vitrine pour vous finalement, ce ouais. musée, puisque vous montrez un peu vos technologies.
Exactement, ouais. Bah, c'était le but du partenariat avec Alerte Orange.
Tout d'accord. Et vous êtes satisfait ?
Très satisfait, ouais. Il y a de très bonnes remontées sur nos technologies, mais surtout sur le musée du jeu vidéo, donc. Surtout très intéressant.
Il y a des gens qui vous contactent justement après avoir une visite du musée du jeu vidéo ou là, ça va venir plus tard.
Ça va venir plus tard, je pense que là ça fait que deux jours que c'est ouvert, mais bon déjà les retombées au niveau de la presse sont assez intéressantes, tant au niveau du musée du jeu vidéo qu'au niveau de nos technologies, donc on est très content, très satisfait.
Donc je vais revenir sur mon ami Savant Fou de Joystick. Désolé, je t'embête en plein travail, en plus tu es en train de faire ton reportage là. Justement, ça me fait plaisir d'avoir un peu les coulisses donc du journaliste, parce qu'on n'a pas l'occasion de le voir. Mmh. Tu vas faire un article sur le musée ?
Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je suis venu avant tout parce que c'est quand même un événement important. Un musée du jeu vidéo qui ouvre sur une grande surface. Une grande surface, c'est pas encore assez léger, mais ça va augmenter avec des passionnés qui demandent ça. C'est quand même des gens qu'il faut rencontrer, voir un petit peu comment ça se passe. Après, est-ce que ça va donner un reportage, une chronique, un article? Je sais pas encore. Je suis pas venu ici spécialement avec un plan. Je suis déjà venu pour moi. Une première chose.
C'est bien ça déjà.
Et puis après, si ça me permet de placer un article, écoute, tant mieux.
D'accord, oui, effectivement, tu garantis pas forcément un article quand tu viens. C'est important de le savoir parce que même si les journalistes sont invités, il n'y a pas toujours forcément d'article. Est-ce que c'est monnaie courante dans le milieu ?
Tu veux dire de faire des interviews et que ça débouche pas sur des
voilà.
sur des articles ? Ça dépend. Il y a quand même beaucoup d'interviews qu'on fait. Bon, faut bien le dire, c'est des interviews qui sont arrangé au cours de presse tour avec les services de presse, donc ça débouche toujours sur quelque chose. Dans l'ensemble, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, je m'arrange toujours pour que ça donne quelque chose et si possible vraiment un article qui me plaise, dans lequel je mette un peu de moi-même. C'est vrai que dans la presse de vidéo, ça arrive pas forcément qu'on puisse le faire. C'est bien que Joystick nous permette de le faire justement. Après, pour le cas particulier du musée du jeu vidéo, en fait, l'idée serait plutôt de faire une chronique sur la façon dont, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, ici, les gens essaient de préserver la mémoire du jeu vidéo avec comme accroche d'actu l'ouverture de ce musée. Après, est-ce que ça peut donner un reportage par la suite? Pourquoi pas? On en fait de plus en plus en ce moment.
Effectivement.
Alors sur le Global Game Jam, sur des trucs comme ça, sur des événements qui sont un peu connexes, et on essaye un peu de sortir des tuyaux, des pipes médiatiques que nous imposent les éditeurs. Mais voilà, c'est pas.
Non mais c'est un métier, effectivement, c'est de plus en plus. Vous avez cette liberté finalement, vous, Joystick, de pouvoir parler d'un sujet sans forcément être obliger un éditeur vous envoie un communiqué de presse de le faire absolument, d'en parler.
Ah non, mais de toute façon, ils peuvent nous envoyer tous les communiqués de presse. Enfin, c'est pas propre à Joystick, c'est propre à n'importe quel magazine. Un éditeur nous envoie un communiqué de presse ou nous invite en presse tour. On n'est pas obligé de. Enfin, on n'est pas à leurs ordres. Maintenant, c'est vrai que si on veut rencontrer, les game designers de Touquet Marin, les mecs de Rockstar North, il y a un passage obligé qui s'appelle le service relations presse de EA, le service relations presse de Rockstar, et voilà, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre. Maintenant, si on peut essayer de parler un petit peu d'autre chose, parler de jeux indés, parler de festivals de gaming, de rétro gaming, pourquoi pas d'e-sport, même si bon, c'est un phénomène qui a un peu du plomb dans l'air en ce moment, malheureusement, on s'en prive pas.
D'accord.
Après, il faut bien voir que notre boulot à nous, c'est aussi de vendre des mags, et malgré tout, une couve sur un gros jeu qui tâche, ça permet d'attirer du lecteur pour après lui proposer autre chose par ailleurs.
Ok, bon.
C'est un équipe délicat.
Bah oui, c'est sûr, effectivement. Bah merci beaucoup pour ton témoignage. Je vais peut-être lui poser 2-3 questions par rapport à ça. Bonjour. Non ? Ah, parle pas français. J'ai pas de chance. English, no?
Non,
non, English. Italian. Ah, finalement, non, italienne pour moi. Y a pas de problème. Non, mais elle a bien raison. Cette jeune italienne. Comme quoi, on a vraiment un musée international. Voilà, donc c'était intéressant à dire. Je peux pas se deviner. Bon, je la laisse faire des photos tranquilles. Donc là, je suis plus sur une partie de création française avec les notes de... Ah bah oui, effectivement, le bloc-notes, l'esquisse de Another World. Voilà, donc bel objet, vraiment un objet mythique pour tous les passionnés de jeux vidéo et notamment d'Eric Chahi, qui est donc le créateur de Another World, pour ceux qui connaissent. Et là, d'avoir les croquis et les images, les artworks qui ressemblent vraiment au jeu, c'est assez impressionnant. On nous en parlait tout à l'heure. C'est assez beau quand même. Ensuite, tout plein de panneaux avec les créateurs de jeux vidéo français. Voilà. Notamment Eric Viennot, Philippe Ulrich, Frédéric Rénal, Michel Ancel, David Cage, Eric Chahi et Paul Cuisset qui sont cités ici, ainsi que des grands acteurs internationaux. De Kojima, Miyamoto, Jade Raymond, Yu Suzuki et bien d'autres que je laisserai découvrir à toutes les personnes qui viendront au musée du jeu vidéo. Je vais passer donc à d'autres interviews. Je suis désolé, je suis avec un micro, Clubic, c'est ça?
Oui.
Oui, Clubic, je peux vous poser 2-3 questions juste rapidement pour dire, vous êtes quand même professionnel du jeu vidéo, vous travaillez donc pour Clubic, jeuxvideo.fr si j'ai bien compris. D'accord. Déjà, le musée du jeu vidéo, comment vous avez entendu parler et après vous avez donné un peu votre avis sur ce musée à chaud comme ça.
Alors moi, j'étais allé voir déjà l'Expo Retro Gaming qui avait eu l'été dernier, qui était dans le 13e arrondissement de Paris, l'expo temporaire. Et du coup, quand on a entendu parler de ça, on s'est dit que c'était la suite logique de venir voir comment ça avait évolué.
D'accord. Ok. Et finalement, qu'est-ce que t'en penses?
Je trouve que c'est pas mal du tout quand même, c'est assez grand et il y a plus de pièces que ce que je pensais, surtout par rapport à l'expo temporaire qu'il y avait. Et c'est assez plaisant de voir pas mal de consoles auxquelles j'ai joué quand j'étais gamin, quoi.
Effectivement, ça fait plaisir. Ton nom, rapidement, t'as ton pseudo ?
Clément, mon nom c'est Clément.
Clément, d'accord, ok. Toi
Moi, Antoine.
Antoine, ok.
Moi, j'avais pas été à l'expo parce que je suis depuis moins longtemps à Clubic, mais par contre, je suis d'assez près l'actualité du musée de l'informatique et tout ça. Ce que j'en pense, je trouve ça très intéressant aussi. Hein. Pareil, le côté nostalgie. Moi, je trouve qu'il y a une place beaucoup trop grande accordée à Mario, et je suis fondamentalement anti-Mario, et je trouve qu'il n'y a rien sur Sonic, il n'y a pas assez de choses sur Sonic.
C'est rare d'avoir quand même l'anti-Mario, c'est génial, je le garde là. Alors, vas-y, déjà, dis-moi pourquoi tu n'aimes pas Mario.
Non, j'aime pas Mario parce que je trouve la figure du plombier moustachu complètement cliché, alors qu'un bel hérisson bleu qui tourne avec un ami renard à deux queues, c'est tellement plus poétique. Et en fait, il faut surtout dire que j'ai commencé à jouer sur un Atari, j'ai commencé à jouer sur Mega Drive et sur des choses comme ça, donc j'étais très très Sonic quand j'étais gamin en fait.
Moi aussi, hein, j'ai un pro Sonic, donc voilà, pour ça, moi on est deux là-dessus. C'est vrai que t'as pas de problème avec les plombiers avec des salopettes rouges et des moustaches, j'espère.
Dans la vraie vie ?
Oui, oui.
Non, quand j'ai des problèmes de plomberie, je mets des petits hérissons pour boucher.
T'as raison. Ok. Alors, bon, on va dire une chose. Bon, c'est vrai qu'on est tous très très contents quand même. Tu parlais de nostalgie tout à l'heure. Quel est l'objet là que tu gardes en mémoire et qui vraiment un peu t'a fait sortir la larme à l'œil
Sur la partie jeu vidéo, la Game Gear.
La Game Gear, c'est vrai.
Ouais, obligatoire. C'est ce que disait Clément tout à l'heure. Il m'a dit, mais c'est tellement gros, même par rapport à la Game Boy, c'est vrai, mais c'était quand même l'écran de couleur. Quand on perdait un petit bout de l'écran à cristaux liquides, on pleurait parce que ça explosait les trois quarts de l'écran. Mais c'est énorme. Et je me suis rendu compte en venant ici qu'il y avait des tuner TV pour la Game Gear.
Effectivement.
Eh ben, je savais pas.
Si, ben, je savais, mais c'était qu'au Japon, donc moi j'avais pas les moyens de payer un truc au Japon.
D'accord.
Et est-ce que tu as vu, effectivement, t'as la Game Gear, mais surtout tu as vu, elle est jaune avec des boutons verts.
Elle est jaune avec des boutons verts, ouais.
Et ça, je crois que c'est une pièce unique. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai jamais vu cette console-là.
Non, pareil, moi j'avais la noire basique.
Comme tout le monde, oui.
Voilà, qui bouffait 6 piles en un quart d'heure, mais c'était très sympa. Donc voilà, c'est ce que je préfère. Après, moi je trouve que ça s'intègre hyper bien dans le musée de l'informatique, de toute façon. Et c'est bien qu'on parle pas du jeu vidéo que en disant c'est pour les no-life et c'est pour les gens qui jouent à ces jeux-là vont tuer des gens dans la vraie vie après, quoi. Ça fait du bien, c'est frais.
C'est vrai que ça manquait finalement, on s'en rend compte et ça ne peut qu'évoluer là, du coup, maintenant que c'est ouvert. D'accord. Excuse-moi, Clément, je vais poser la même question à Antoine.
Qu'est-ce qui m'a marqué ?
Qu'est-ce qui t'a marqué en fait ? Quel est l'objet qui t'a un petit peu fait sortir l'arme à l'œil en tant que gamer ?
Moi, c'est la Atari de 80, je crois que c'est la Intel Vision. Celle où la manette n'est en fait qu'un clavier avec un gros bouton et on mettait une fiche par-dessus le clavier et la fiche dépendait du jeu en fait. Et donc, du coup, ça montrait les fonctions qu'il y avait dans chaque jeu. Et moi, j'avais joué quand j'étais gamin et du coup, la revoir, elle n'était pas à l'expo temporaire l'été dernier. Et la revoir ici, du coup, j'ai envie d'y rejouer quoi.
Du coup, on va ressortir des placards.
J'ai envie d'y rejouer, mais j'ai envie de remettre les petites fiches pour voir comment ça faisait où t'appuies sur chaque bouton, ça fait un rôle quoi.
Ah non, mais c'est pas mal. Finalement, ça redonne envie de jouer à des vieilles consoles auxquelles on n'avait pas touché depuis au moins 15 ans, c'est ça ? Enfin, toi aussi, tu vas sortir ta Game Gear du coup ?
Ouais, je vais peut-être pas ressortir ma Game Gear, je vais peut-être ressortir l'Atari 520. Ce qui manque un petit peu ici, c'est les ordis.
Oui, mais il y a le musée de l'informatique à côté.
Ouais, mais l'histoire du jeu. Bon, après, ce qui manque, c'est une première étape. C'est ce qu'ils ont dit, ça va venir et tout. Moi, j'attends ça avec impatience parce que l'histoire du jeu est quand même pas vraiment dissociable de l'histoire du PC. Donc, c'est vrai qu'il y a la partie informatique, mais moi, quand je vois tous les jeux, c'était quand même la possibilité d'avoir des jeux pas trop chers quand on était gamin sur disquette. Moins cher en tout cas que les jeux que voulaient pas forcément acheter les parents ici quoi pour les consoles, donc voilà, ça c'est le seul truc qui manque, mais je pense que ça viendra, donc y a pas de soucis.
Bah, certainement, oui, effectivement. En plus, toi, en tant que professionnel clubique, professionnel du PC un petit peu, finalement c'est vrai que c'est ce qui manque. Bah, écoute, c'est très gentil. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire de promo de clubic.fr. Je pense que
.com
.fr. On peut faire suivant .fr.
Les gens connaissent.
Je pense que de toute façon, on connaît. Mais même si on fait .fr, ça marche normalement, non ?
Oui, sans doute. Ouais.
Mais sans doute.
Je pense qu'ils ont acheté le .fr.
Effectivement. Donc voilà, pas besoin de faire de promo. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à quelques questions sur ton temps. Chloé, oui. T'es à côté de moi, c'est parfait. Organisatrice, on peut dire que t'es organisatrice du musée du jeu vidéo. Ça n'avait pas été trop dur là ces derniers jours?
Cette semaine a été très 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 difficile, très peu mangé, très peu dormi, beaucoup de stress, mais je suis très contente du résultat. Je vois les familles qui arrivent, je vois vraiment un côté intergénérationnel qui me plaît énormément, et je vois en plus des médias généralistes qui s'y intéressent, et ça c'est mon plus gros kiff, c'est que j'ai un directoire qui me fait 2 pages et qui dit le jeu vidéo c'est bien, le jeu vidéo c'est pas les marronniers habituels de violence, etc.
Ça change, effectivement.
Ah mais ça me fait un bien fou, Canal Plus aussi qui sont venus quand même 3 fois. Va encore y avoir des diffusions ce week-end, mais je suis super flattée et je trouve que c'est incroyable pour la reconnaissance du jeu vidéo. On commence enfin à comprendre que le jeu vidéo c'est pas que ce qu'on nous montre dans les marronniers habituels des médias, quoi.
Effectivement, ça fait plaisir. Tu as parlé de visite intergénérationnelle. J'ai vu tout à l'heure des étrangers qui venaient voir ça. Enfin, je trouve ça un peu hallucinant déjà qu'il y ait des étrangers qui viennent voir, même s'ils viennent sur le toit de la Défense par curiosité. Est-ce que tu as eu des retours de gens, pas forcément des gamers, mais des gens du grand public?
Alors effectivement, il y a beaucoup de gens quand même qui viennent à la Défense pour visiter l'Arche, donc pour venir voir la vue, et ils tombent par hasard sur le musée du jeu vidéo. Donc on a eu des gens comme ça mercredi et jeudi, et ils sont très agréablement surpris, parce qu'ils viennent pas du tout pour ça à la base. Ils débarquent avec leurs enfants pour voir la vue, par exemple, hein, et ils se rendent compte qu'en fait, il y a un musée du jeu vidéo, qu'ils vont pouvoir rejouer avec leurs enfants, et qu'ils vont pouvoir montrer à leurs enfants les consoles auxquelles ils ont joué quand ils étaient eux-mêmes jeunes, et leur dire « voilà ». Le jeu vidéo, il a une histoire. Le jeu vidéo, il existe depuis 40 ans. C'est pas né avec la PS3, c'est pas né avec la Wii ou la DS. Voilà, il y a vraiment quelque chose derrière. Et les retours qu'on a, c'est que c'est un réel plaisir. Et il y en a beaucoup qui sont très nostalgiques. Il y a vraiment la petite larme. Alors là, la petite larme, je la vois, mais tous les jours en ce moment.
Et donc même pas des gamers en fait, même des gens qui sont pas du tout des gamers aujourd'hui ou qui sont absolument des professionnels, ils ont tous la larme nostalgique.
Absolument, c'est vraiment intergénérationnel cette nostalgie, et c'est international, ça touche tout le monde.
D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail là après l'ouverture ou on va un peu souffler maintenant?
Non, il y a encore beaucoup de travail, parce qu'effectivement, on est un peu désacharné. Hein. On avait mis une date, donc on l'a ouvert à cette date. Mais on a encore beaucoup de choses à faire. On a encore des petites astuces à trouver pour des systèmes d'accroche. Par exemple, on a encore des casques à poser pour les vidéos, parce que tu as vu des vidéos qui tournent.
Effectivement.
Tu te dis, ah, mais on peut pas les écouter, ces vidéos, c'est nul. Ben, en fait, on pose les casques cet après-midi.
Ah, d'accord, ok. quand vous viendrez au musée de vidéo, il y aura des casques pour les vidéos, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure.
Voilà. Effectivement, il reste pas mal de choses à faire.
D'accord, donc là, vous êtes un petit peu encore dans les cartons, en train de poser. J'ai vu tout à l'heure des gens qui ont enlevé des plastiques, des chaises, etc. Donc, c'est pas encore tout à fait terminé, là.
Voilà, par exemple, aujourd'hui, on a reçu la Tetris chair du designer Gabriel Cagnas, qui est donc une chaise en forme de Tetris, et elle était bloquée aux douanes. Ils ont dû croire qu'il y avait la cocaïne dedans, puisqu'elle venait du Mexique. Donc,
il y a la cocaïne dans les trucs de Tetris, c'est pas mal. C'est intéressant. Non, mais bon, pourquoi pas.
Voilà, donc on l'a débloquée, elle vient d'arriver ce matin et on est ravis.
D'accord, ok. Alors, je reviendrai peut-être vers toi si j'ai d'autres questions, mais merci en tout cas pour ta gentillesse et puis surtout pour ce magnifique musée qui intéresse beaucoup de monde.
Écoute, je t'en prie, c'est un vrai plaisir.
Merci.